Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler du meilleur ministre de l'économie capitaliste de tous les temps que nous ayons eu en France, Bruno Le Maire, depuis 7 ans en charge d'exploiter la population en assurant la bourgeoisie libérale en économie qu'elle pourra continuer d'engranger des profits pendant que les pauvres deviendront de plus en plus pauvres. Eh bien, il était là, présent, et il a fait le job. Pour parler de ses dernières phrases, on peut citer son discours sur l'égalité et le respect des vieux travailleurs. Tout ça pour vendre à l'opinion publique l'idée de réduire la durée d'indemnisation des personnes de plus de 55 ans au chômage. Il est très fort. La honte devrait lui rougir les joues, mais à la place, il récidive régulièrement. Quand il doit expliquer la hausse vertigineuse de la dette publique, il accuse les collectivités locales. C'est jamais lui, c'est jamais le système, c'est surtout pas le capitalisme. Et oui, je l'appelais régulièrement le libéral vindicatif, c'est ce qu'il est. Depuis 2016, où il s'est présenté à l'élection, aux primaires des Républicains, eh bien, il avait cette position très vindicative en libéralisme économique. Et il l'est resté. C'est toujours de la faute de l'autre. Eh ben, remettre en cause quoi que ce soit serait, superfétatoire. Alors, il accuse les collectivités locales, il accuse les vieux, il accuse les chômeurs, il accuse tout le monde. À partir du moment où il faut continuer à faire exister cette économie capitaliste avec les valeurs libérales. Il accuse la collectivité locale, de la commune à la région, d'être trop dépensière. Ouais, et lui, dans tout ça, eh ben, il se casse. Il se casse direction Lausanne, l'université de Lausanne, pour aller donner des cours de politique publique et géopolitique. Mais il semble que son libéralisme vindicatif soit connu en Suisse, puisque les murs de l'université se sont parés de quelques graffitis d'accueil. Notamment, on peut lire « Il n'y a que les milliardaires pour qui fait le maire. Il a augmenté la dette publique, mais ministre de la faillite, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça que vous voulez comme prof. Il écrit des livres de cul au lieu de faire son job. Où est votre précieuse valeur travail? Voilà, il s'est fait un petit peu rhabiller pour l'hiver. Pourquoi? Parce que y a des gens qui sont au courant au-delà des frontières de ce qu'est le libéralisme vindicatif. Voilà donc, à propos de Bruno Le Maire qui va... Non, il ne va pas nous manquer, pardon, excusez-moi. Et donc, finalement, les Suisses qui boiront les paroles du maître à penser ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. On attend toujours, on aurait pu vous parler, de la démission du gouvernement. Ah ben non, ça c'est fait. La nomination d'un gouvernement, voilà, excusez-moi, j'ai confondu les mots. C'était la bonne phrase, donc pouf pouf. On aurait pu vous parler du fait qu'on attend toujours la nomination d'un gouvernement. Alors, dans la veine habituelle du feuilletonnage, le Premier ministre... Le ministre de droite Michel Barnier a visité le président de droite Emmanuel Macron pour lui présenter une liste de 38 noms, dont 19 hommes. C'est donc paritaire. C'est pas plus que paritaire, aurait dit Monsieur Attal, qui, oui, ne connaissait pas le mot paritaire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ait appris. Pour les noms, il faut encore attendre la version officielle, mais on sait que tous les ministres et sous-ministres sont libéraux et productivistes. Non, ouais, pas de représentants des idées socialistes. Hein. Ah non, attendez, j'ai pas du tout parlé du parti du même nom, où là aussi, on a beaucoup de libéraux en économie. Pas de représentants des idées socialistes, disais-je, c'est-à-dire pas de personnes qui auraient des idées socialistes en économie, donc pour qui le profit ne serait pas l'alpha et l'oméga de leur action. Des personnes qui mettraient l'économie à sa place dans la société, bien loin derrière, bien loin derrière la satisfaction des besoins des populations. Besoins définis par les populations elles-mêmes. Ah, voilà, ce serait ça un monde socialiste. Des personnes qui auraient pour ambition de remplacer l'économie capitaliste par une économie socialiste. Non, pas de personnes comme ça dans le nouveau gouvernement. Ils auraient pour ambition de se débarrasser de cette économie socialiste. Pourquoi? Parce que on ferait alors sans le productivisme et la compétition entre des boîtes privées appartenant à des rupins qui veulent devenir les plus riches du coin, voire même les plus riches du cimetière, puisqu'ils ne lâcheront rien jusqu'à la fin. Tiens, par exemple, en créant des coopératives, ça, ce serait déjà un premier pas vers une économie socialiste. Et d'ailleurs, à ce propos, sur France Info, en ce moment, on peut entendre ça.
Vous dites à vos amis que vous voulez entreprendre. Montez une boîte. Et vous dites aussi que vous voulez le faire avec vos valeurs, votre philosophie, ce en quoi vous croyez. Dans les sociétés coopératives, on partage les grandes décisions, on partage les bénéfices, on met l'humain au cœur de l'entreprise. Les sociétés coopératives, c'est exactement ce qu'il vous faut pour faire ce que vous dites. Découvrez les sociétés coopératives sur lescope.coop. Lescope, un autre modèle de société.
Ah ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Mais vous imaginez, des entreprises où le but, ce serait pas de faire un maximum de pognon, quitte à tuer les collaborateurs. Oui, bah si, France Télécom, quand même, c'était l'idée. Hein. Tiens, on va s'en débarrasser. Physiquement, ouais, physiquement. D'accord, on embauche des gars de la mafia ? Non, on embauche plutôt des gens qui ont une psychologie inversée qui a pour but non pas de te rendre meilleur et de te donner un peu plus de bien-être, mais plutôt de te pourrir la vie. Voilà donc ce qu'on pouvait entendre ce qu'on peut entendre depuis la fin du mois d'août sur l'antenne de France Info, une publicité pour les sociétés coopératives de production qui s'appelait auparavant Société coopérative ouvrière de production, hein, où on partage des décisions et des bénéfices. C'est déjà un premier pas hors du capitalisme. Si ça vous intéresse, scop, scop.coop, coop. Donc dans ce nouveau gouvernement, personne sur cette longueur d'onde, c'est-à-dire partage des décisions et des bénéfices. Non, c'est pas du tout de partage des décisions. Et puis bah les bénéfices, c'est tout pour ma pomme. Bah ma pomme, la famille, les copains, hein. Bah voilà, on n'est pas chiens non plus. Hein. Mais ça fait quand même un nombre limité de personnes. En clair, personne dans ce gouvernement qui aurait à cœur d'organiser des actions au profit des peuples et non pas au profit des accumulateurs de pognon. Personne qui traiterait les peuples comme des humains et pas comme des ressources humaines. Ouah, j'ai l'impression de me répéter, mais bon quand même, ils n'arrêtent pas, semaine après semaine, de nous faire comprendre que nous ne sommes rien d'autre que des gens qui doivent leur rapporter de l'argent. Leur, c'est qui leur ? Eh ben tous ceux qui prennent les décisions pour nous, en nous faisant croire d'ailleurs qu'ils sont nos représentants. Ben d'ailleurs, pas de représentants de cet acabit dans le nouveau gouvernement, pas encore définitif. Ouais, c'est triste parce que les journalistes, commentateurs et autres intervenants médiatiques passent leur temps à nous parler de démocratie, pour désigner la démocratie représentative, qui l'est de moins en moins représentative et qui, à mon sens, n'est pas tout à fait démocratique. Résultat de 2 mois de tergiversation, rien ne va changer. On va continuer à gaspiller les ressources de la planète, le temps des salariés pour rester compétitifs dans la grande course à l'accumulation économique. Et pour le reste, eh bien, on pourra malheureusement compter sur ce gouvernement pour propager le pire à propos des étrangers, notamment pour récupérer les électeurs du RN qui, depuis 30 ans, se trompent dans leur de cible dans leur volonté de changer le système. Alors d'aucuns ne sont pas d'accord. Eh ben il faut le dire. Eh ben c'est pourquoi il y a des manifestations diverses et variées. Si vous êtes à Nantes, c'est à 14h à la préfecture. Si vous êtes à Rennes, c'est à 15h place Charles de Gaulle. Si vous êtes à Marseille, oui ça fait loin, mais quand même on sait jamais avec RadioAlpa.com. C'est à 14h place d'Aix. Et si vous êtes au Mans, eh bien c'est à 15h30 à la préfecture de Le Mans. Ensemble contre le coup de force de Macron. Voilà tout ça pourquoi ? Ben pour essayer de réclamer justement l'application du programme. Oui ce serait déjà un premier pas contre le capitalisme. Le programme du Nouveau Front Populaire, rappelons que les membres du Nouveau Front Populaire sont arrivés premiers dans la course électorale, la dernière, celle des législatives, et que si on suit les idées qui sont celles de la 5e République, normalement, ils auraient dû avoir la possibilité de créer un gouvernement. Tiens, on aurait pu... Alors, rappelons-nous, 15h... à place de la préfecture à Le Mans pour une manifestation contre la nomination du gouvernement actuel, dont on n'a pas encore l'ensemble des participants, mais dont on sait qu'il sera forcément bien de droite, bien libéral, bien productiviste. On aurait pu vous parler de la guerre coloniale en Nouvelle-Calédonie, le 24 septembre 1853, oula, ça ne rajeunit pas. Officiellement, l'Empire français de Napoléon III prend possession de l'archipel peuplé de Kanaks. Alors vous entendrez le rattachement officiel de la Nouvelle-Calédonie. Non, ils ont pris possession. Il n'y a pas de rattachement, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas... Non, il y a une invasion, et puis ceux qui ont envahis disent ça maintenant c'est à nous. C'est beaucoup moins joli. Et l'histoire de rattachement, on pourrait se dire ils sont décidés les Kanaks. Et rien, que dalle, chiben comme on disait par chez moi. Parce que les populations locales, elles ont subi ce rattachement. La prise de possession de l'archipel peuplé de Kanaks a entraîné le parquage des populations locales, oui, dans des camps. Ah ben oui, si, quand même, hein. Ça s'est passé comme ça. Il y a eu la construction d'autres camps et de prisons aussi pour accueillir les métropolitains déportés, puisque la Nouvelle-Calédonie est une colonie pénitentiaire au XIXe siècle. Les Kanaks n'ont aucun droit civique jusqu'au milieu du XXe. Les richesses ont été exploitées au profit de la métropole. En clair, la colonie est pillée, comme c'est le cas dans toutes les colonies. Et si t'es pas d'accord, puisqu'il y a eu des révoltes régulières, 1878, etc., eh bien, ça a donné quoi? Des massacres. Non, mais clairement, bon, bah là, du coup, on n'est plus dans le massacre, parce qu'il y a un petit peu trop, quand même, de réseaux, on peut avoir des informations. Mais cette réalité ne pouvant pas durer éternellement, et ben, régulièrement, la population locale se révolte. Et ben, la dernière fois, devinez, c'était en mai 2024. Et la France envoie alors des troupes de gendarmerie, des militaires, en gros, en quantité. Depuis mai, les affrontements ont baissé d'intensité, mais il en reste. Cette semaine, deux hommes ont été tués par le GIGN dans la tribu de Saint-Louis. Des hommes qui sont recherchés pour avoir tiré sur policiers. Voilà, alors bah, ils sont présumés innocents, hein, mais en tout cas là, ça tire un petit peu partout, hein, dans un sens comme dans l'autre. La tribu de Saint-Louis, c'est un bastion indépendantiste coupé du reste du monde par des barrages sur la route. En gros, bah, au nord, ils ont mis des véhicules de gendarmerie. Alors, c'est pas la camionnette, hein. Non, c'est les véhicules blindés. Et puis, bah, au sud, ils ont fait la même chose. Deux nouveaux morts, ce qui porte à 13 le nombre de morts depuis mai. Ouais, vous voyez, là, on peut plus faire du massacre comme avant. Ah, le bon temps des colonies, aurait dit Michel Sardou. La France mène un conflit colonial en plein Pacifique en 2024, actuellement. Eh ben, moi, je me suis dit qu'on comprenait tout de suite un petit peu mieux pourquoi elle se positionne aussi frileusement quant à la colonisation des territoires palestiniens par Israël. On peut me dire, ben non, ça n'a aucun rapport. Moi, si j'étais un colonisateur, ben, je taperais pas sur les autres colonisateurs. Voilà. On aurait pu vous parler du prix du monument préféré des Français donné au circuit des 24 heures, qui sert, je le rappelle, à polluer le nord de la région Mancelle avec l'organisation par l'Automobile Club de l'Ouest de courses de véhicules à moteur à explosion de tout genre. De tout genre. Là, actuellement, il se passe quelque chose sur le circuit, quoi. Je ne saurais vous dire. Je n'ai pas le programme en tête, mais je sais que les 28 et 29 septembre, ce sont des camions qui vont s'affronter sur le circuit avec beaucoup de bruit et de fureur, aurait dit l'autre. Mais comme... On aurait pu vous parler de ça, cette histoire de monument préféré là, mais comme les concours clochemerlistes nous font l'effet du cidre doux, on ne commentera pas la fierté du frère Fillon. Non, du coup, qu'est-ce qu'on a préféré faire? On a préféré vous parler de l'exploitation des populations par les libéraux, du berceau jusqu'au cimetière. Cette semaine est paru un livre d'un certain Victor Castanet qui s'appelle « Les ogres ». Et les ogres en question, eh bien ça parle des crèches. En janvier 2022, le même avait commis « Les fossoyeurs », deux points, révélation sur le système qui maltraite nos aînés. Ça parlait notamment d'une chaîne d'EHPAD privée qui s'appelle Orpea. Orpea, bah, comme les crèches privées qui sont dénoncées dans son nouveau livre qui s'appelle « Les ogres », ont des techniques. Des techniques qui leur permettent de maximiser les profits. Le but étant celui-là. Une boîte privée, elle doit faire du pognon. Alors ben comment on fait? Ben on rogne sur les repas. S'il y en a pour 12, il y en a peut-être pour 14. Et ben comme ça, ça fait que les portions sont un petit peu plus petites, mais on gagne un petit peu de pognon. On rogne aussi sur les consommables. C'est-à-dire qu'il y a besoin de couches? Ouais, mais ça peut tenir encore un peu. Combien de couches par personne et par jour? Ben on compte au minimum. Et puis si on peut limiter, hein, les laisser traîner cul nu. Bah, oh, comme ça. Oh, je sais pas si ça se fait exactement de les laisser traîner cul nu, mais les laisser traîner le cul dans la merde, oui, ça se fait. On peut rogner sur les personnels aussi, c'est-à-dire bah, qu'on embauche le moins possible avec un salaire le moins haut possible. Maltraitance des enfants, donc, et des vieux, hein, puisque pour Orpea, ce sont les mêmes causes qui amènent les mêmes effets, ainsi que bah, maltraitance des personnels. Dans quel but, déjà? Ah oui, faire plus de fric. Voilà, ça le mérite d'être clair. Victor Castanet rapporte en plus des dérives des crèches privées, que les pouvoirs publics, et en particulier Aurore Berger, ministre aux Solidarités et à la Famille, en charge du dossier des crèches, auraient eu des contacts privilégiés avec la Fédération française des entreprises de crèches, le syndicat des opérateurs privés, et en particulier avec Elsa Hervy, la porte-parole de cette FFEC, hein, la Fédération française des entreprises de crèches. Aurore Berger s'en défendait déjà devant une commission d'enquête parlementaire en avril 2024. Commission qui faisait suite à la parution de deux livres au début de l'année 2024. Commission qui était chargée de vérifier si ce qui était balancé dans les bouquins semblait vrai. Et qui avait pour but donc de vérifier si l'argent public ne servait pas à financer des boîtes privées qui ne faisaient pas leur boulot, un peu comme les EHPAD privés qui se gaffent parfois en rognant. Eh ben tiens, on l'a déjà dit, sur quoi déjà? Sur la nourriture, sur les consommables, comme les couches. Ah non, mais ça fait mal quand même. Sur le personnel, tout ça, pourquoi? J'ai l'impression de me répéter encore, mais il faut dire que chaque semaine, ils nous font le coup, pour maximiser le profit. On écoute Aurore Berger en avril dernier devant des députés.
Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment. Je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête. Donc je le redis sous serment pour que ce soit clair. Je n'ai jamais, jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby.
Aucun. Excusez-moi, c'est nerveux. Alors, nous fait-elle une Cahuzac en affirmant cela haut et fort? On peut légitimement se poser la question quand on entend Victor Castanet, qui, mercredi dernier, mercredi 18 septembre, à l'occasion de la sortie de son bouquin, était invité sur l'antenne de France Info. Lui aussi, on va l'écouter.
Moi, je rapporte des témoignages à la fois du côté du secteur privé, mais aussi de membres de son cabinet, un certain nombre de collaborateurs qui se sont inquiétés des liens d'Aurore Berger avec la Fédération des crèches privées, notamment avec ses délégués généraux. Ils étaient tellement, pour certains, dégoûtés qu'ils ont décidé de quitter le cabinet. C'était plusieurs à le faire. C'est assez rare que des collaborateurs à ce niveau-là décident de quitter un cabinet parce que, me disent-ils, ils avaient l'impression de répondre non pas à l'intérêt général, mais de voir répondre à des intérêts particuliers poussés par les demandes de la ministre. Et on m'a transmis des documents, on m'a transmis des messages, WhatsApp, des mails, des enregistrements où j'ai pu voir effectivement des échanges très réguliers entre Elsa Hervy, la déléguée générale de la Fédération, et Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles. Et je l'explique dans le livre, l'existence d'un pacte de non-agression au moment de cette crise, il y a un an, où effectivement les règles du jeu étaient simples. Un, vous ne tapez pas, les adhérents de la fédération ne remettent pas en cause la politique gouvernementale, et nous on saura faire preuve de bienveillance à votre égard. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire même j'ai des enregistrements où on entend des membres de la fédération se féliciter de copiloter la campagne médiatique d'Aurore Berger et les messages qu'elle portait. Ils ont notamment transmis une note à la ministre avant ses interventions, notamment sur BFM, et presque point par point,
une feuille de route
a été repris par la ministre. Donc oui, ce lobbying, qui n'est plus du lobbying, c'est de l'influence, il questionne parce que dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans la politique, vous êtes dans la com. Et ce n'est pas comme ça que vous traitez les problèmes de fond. Et d'ailleurs, il ne s'est pas passé grand-chose depuis ce scandale, ce début de scandale il y a un an. Pas dire qu'il se soit passé grand-chose dans le secteur.
Si les allégations de Victor Castanet sont exactes, alors on pourrait dire que Aurore Berger cède beaucoup de ses valeurs à sa carrière. Elle cède aussi du sentiment. Il faut, à mon sens, manquer de pas mal d'empathie quand on laisse des enfants en bas âge, littéralement, dans leur merde, pour protéger ses copains du gouvernement. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que ça, l'empathie ?
Nya 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 nya, j'arrête !
C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le E.
Le E comme empathie. C'est quand tu vois un de tes camarades de classe se faire chicaner par l'enseignant et que tu ressens sa tristesse. Qu'elle ou qu'il se fasse traiter de cette façon. Tu es capable de comprendre comment une autre personne se sent et pas seulement tes amis. C'est ça, l'empathie. Eh bien, il semble que ça manque un petit peu à Aurore Berger, puisque tous les enfants ne peuvent pas être ses amis. Mais elle pourrait quand même ressentir un petit peu leurs sentiments quand ils ont la merde au cul. Pour abonder dans mon sens, je peux rappeler que Aurore Berger est une arriviste, comme bon nombre de libéraux. Si, si. Ah si, c'est clair. Les valeurs libérales étant basées sur l'égoïsme, les libéraux pratiquants sont toujours à l'affût d'une opportunité pour eux et leurs copains. Aurore Berger a déjà commis une loi de brute à propos du logement avec un autre député macroniste devenu éphémère ministre du logement, monsieur Kasbarian. En 2023, ils ont rapporté une loi qui durcissait les sanctions contre les squatteurs, et peu importe leur motivation, et contre les locataires qui ont du mal à payer leur loyer, et peu importe leurs difficultés. Une loi pondue alors que la pauvreté augmente fortement en France et que, justement, les squats et les loyers impayés augmentent également. En clair, cette femme a déjà le bon profil pour ne pas voir l'humain en chacun de nous, mais bien une ressource humaine génératrice de profits à capter. S'accorder avec un lobby pour laisser faire, laisser passer devient totalement plausible. Espérons que les révélations de Victor Castanet et les preuves qu'il avance ne se perdront pas dans les couloirs d'un ministère de la Justice tenu par des libéraux. Tiens, si c'est avéré, Aurore Berger, en laissant faire un maximum de pognon au détriment de Bambin, est tout à fait dans le créneau libéral en économie. Parce que pour les libéraux, tout est marchandise. Bah, y compris les humains, hein, en bas âge, ou les vieux. Pour eux, il est normal d'exploiter les opportunités. Alors si l'opportunité, c'est un petit vieux ou un petit tout court, exploitation obligatoire. Il apparaît que toutes les activités humaines ne peuvent pas être assurées par des libéraux. Non, parce que sinon, on va détruire cette idée même de société si à chaque fois, il y a l'idée de se faire du pognon à votre détriment. Le service public est alors l'alternative. Dans une société normale, nous ne devrions même pas avoir besoin de faire garder les petits pour servir de ressources humaines. De la même manière, dans une société normale, les vieux auraient encore un rôle dans la production et les échanges de richesses, comme tout au long de leur vie, à la hauteur de leurs moyens et en fonction de leurs besoins. Seulement, nous ne sommes pas dans une société normale tournée vers le bien-être des populations, nous sommes dans une société capitaliste tournée vers l'accumulation de profits pour quelques-uns, aux dépens du reste de la population. Et dans ce genre de société, il est tout à fait acceptable de laisser ses marmots à la crèche pour aller honorer son contrat de travail. Et il est même ordinaire de réduire les vieux à des inactifs entassés dans des EHPAD dont la progéniture n'a pas le temps de s'occuper. Ben non, n'oublions pas qu'il faut honorer son contrat de travail. Alors, j'ai pas le temps de m'occuper de mes vieux. Et à partir de juillet 2022, n'importe qui, ou presque, revenant aux crèches, pouvait avoir un contrat de travail dans une crèche. Pénurie de recrutement oblige. Les macronistes ont pondu un arrêté, en juillet 2022, sur le recrutement des personnels des crèches. Le ministre de l'époque, c'était Jean-Christophe Combes. Ah, Jean-Christophe Combes, un ancien de la Croix-Rouge, pas mal arriviste lui aussi, hein, qui n'avait aucune idée de ce que pouvaient gagner des assistantes maternelles. Il a quand même dit à l'Assemblée nationale que pour chaque marmot gagné, une assistante maternelle faisait un SMIC. Et que justement, en ayant 3 marmots, puisque c'est les agréments majoritaires, eh bien vous aviez 3 SMIC. Quelqu'un lui a dit « Non, arrête, tu déconnes !» Et du coup, il s'est repris « Ah oui, pardon, c'est un tiers de SMIC par marmot. » Ben oui, ces gens-là ont du mal à capter, il était cadre dirigeant à la Croix-Rouge, ont du mal à capter qu'on puisse vivre avec 1500 balles par mois. Donc du coup, forcément, faut toujours plus, ce serait logique. Ah, Jean-Christophe Combes, je vais pas dire qu'il nous manque, mais vraiment, lui, c'était un gros branquignol. Ah, on doit pas pouvoir dire ça de quelqu'un. Branquignol dans le sens où il était totalement incompétent. Ah ben pas loin quand même. Eh bien, à son époque, en juillet 2022, a été pondu un arrêté relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant. L'article 2 nous dit, à titre exceptionnel, dans un contexte local de pénurie de professionnels visé à l'article 1 du présent arrêté, les dérogations aux conditions de diplôme ou d'expérience fixées à ce même article peuvent être accordées en faveur d'autres personnes en considération de leur formation, leur expérience professionnelle passée, notamment auprès d'enfants. Leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance et de leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel. Donc en gros, n'importe qui pouvait être pris à partir du moment où vous étiez une femme et que vous aviez eu un enfant, vous avez une expérience passée. Et puis par exemple, si vous êtes motivé à participer au développement de l'enfant, salut, moi j'aime bien les enfants, est-ce que je peux participer à leur développement ? On t'embauchait. C'était valable pour les établissements publics et pour ceux, bien sûr, de droit privé. À la suite de cet arrêté, les professionnels du secteur se plaignaient d'être en sous-effectif et d'avoir à former des amateurs à peine éclairés. Pas de temps pour le quotidien pour ces professionnels et pas de temps pour former les nouveaux arrivants vierges. On peut comprendre que des conneries arrivent à ce moment-là, que des recrutements soient bancals, que des nouveaux sans diplôme ni expérience ne remplissent pas leurs fonctions de la meilleure manière. Alors, là, on parle pas de canettes de coca ou autres boissons gazeuses dans laquelle lequel un stagiaire intérimaire aura mis un peu trop de sucre par rapport à la recette de base. On parle pas non plus d'erreurs balancées lors d'une visite du vieux Mans par des guides en formation. Non, 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 on parle d'enfants de moins de 3 ans laissés dans des crèches par des parents n'ayant pas le choix d'aller gagner un salaire. Des enfants. Le mot déjà devrait réduire les velléités libérales à appliquer leur credo. Vous savez, laisser faire, laisser passer tant qu'on gagne du pognon. Eh ben non. Eh ben sachez que non. Comme dit en introduction, du berceau à la tombe, les ressources humaines que nous sommes à leurs yeux doivent rapporter et coûter le moins cher possible. Pour eux, il n'existe pas de trêve. L'accumulation de pognon et de pouvoir, c'est à chaque instant et aux dépens de tous les publics. Il se passe plein de trucs la semaine prochaine, notamment des réunions à propos de quoi ? À propos des 200, des 400 arbres qui doivent être coupés, 200 sur l'avenue Bollé et puis 200 ailleurs. Pour les chronolignes, il y a une réunion le lundi 23 qui a lieu au Jacobin. Et donc un rassemblement au Jacobin à 18h pour aller dire que la population n'est pas d'accord avec l'abattage de tous ces arbres. Et il y aura également à ce moment-là une information sur la réunion qui a lieu le mercredi 25 septembre par ce collectif, le collectif contre l'abattage des arbres de l'avenue Bollé. Il y a également le week-end prochain, 28 et 29 septembre, un forum inter-organisation qui a lieu à la ferme du Bas-Paluau à la chapelle Saint-Aubin de 9h à 18h le samedi, de 9h à 18h le dimanche. Ça sera sur l'écologie sociale et le communalisme avec plusieurs invités, mais notamment un certain Floréal M. Romero qui a écrit des bouquins sur Murray Bookchin que les auditeurs de cette émission connaissent bien. Floréal M. Romero qui sera également présent le jeudi 26 septembre à 18h à la librairie Tuard pour les différents livres qu'il a commis sur l'écologie sociale et le communalisme. Moi ce que je vous propose c'est de vous renseigner 28-29 septembre à la ferme du Bas-Paluau, la chapelle Saint-Aubin, avec donc un week-end consacré à cette idée de l'écologie sociale. C'est organisé par Bassine Non Merci, les Corias, écologie sociale communaliste, l'Adventiste qui est dans la Sarthe, le GNSA Sarthe, Greenpeace Le Mans, L214, patrimoine environnemental menacé, les soulèvements de la terre, SKIC, le temps des mérises qui est présent au Beaupaluau, et puis Extinction Rébellion 72. Tout ce beau monde a des sites. Alors, n'hésitez pas à aller voir chez eux pour savoir ce qu'il se passe. Entre 9h et 18h, les 28 et 29 septembre, un forum inter-organisation, donc ferme du Bas-Paluau à La Chapelle Saint-Aubin, sur l'écologie sociale et le communalisme, qu'on se le dise. On arrive à la fin de cette émission. Rappelez-vous qu'il y a également une manifestation, malheureusement encore une manifestation à 14h pour ce qui se passe à Gaza, c'est Place de la République. Tous les jours, des massacres. La fameuse directive Hannibal, vaut mieux tuer les otages que de continuer à négocier avec ceux qui les prennent. La population gazaoui qui se fait bombarder très régulièrement. Et puis cette semaine, c'était au Liban. Voilà, Israël qui, pour se défendre, détruit le reste de l'humanité. Il va peut-être falloir se rendre compte quand même que ces gens-là, le gouvernement israélien, a des petits soucis quand même. Il est d'extrême droite. Et donc, du coup, on n'a pas affaire à des gens qui sont très très ouverts sur le reste de l'humanité. Renseignez-vous au lieu de me traiter d'antisémite, si j'en ai entendu 2-3. Alors nous on va se quitter, mais vous rappelez également donc manifestation à 14h contre ce qui se passe à Gaza, c'est Place de la République à Le Mans, et manifestation à 15h30, Place de la Préfecture, contre ce qui se passe actuellement avec le gouvernement pour l'application d'un autre programme plutôt que le programme de la droite dont on a malheureusement parlé aujourd'hui. Et en attendant de se retrouver dehors pour dire qu'on n'est pas d'accord et surtout qu'on propose autre chose, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.